Bonjour, bonjour à tous. Mardi 22 janvier 2018. Bienvenue dans les voies de service. Il est 9h sur Canal M. Nous terminons de dégeler tranquillement. Ça fume dans le studio presque. Je dis nous parce que je suis en compagnie de Côme ce matin. Bonjour Côme.
Bonjour Louis, bonjour à tous.
Et nous allons passer 7 heures ensemble. Peut-être Yves Olivier nous rejoindra-t-il. Je ne précise même plus.
C'est le froid ne l'arrête pas.
Exactement. Il est peut-être sur un banc de neige quelque part en train de geler. On ira le chercher après l'émission, c'est promis. En attendant, nous avons bien des nouvelles, des articles à vous proposer ce matin. Quels sont-ils de votre côté, Côme ? Vous avez été absent la semaine dernière, j'en ai lu un en votre hommage. Je ne sais pas si vous nous avez écouté.
Et malheureusement non, mais j'irai écouter l'émission
mais
juste
avait,
pour ça.
Il y avait une sacrée nouvelle venue de dernière. On va voir si on l'a peut-être déjà lu. On va voir.
Oh, cas, bah, là, j'ai pas. Non, je me suis pas concentré que là-dessus. Évidemment, il y a quand même d'autres choses. On va parler un peu de froid quand même. C'est quoi cette température qu'on ressent exactement ? Qu'est-ce que c'est que ça ? On va parler longévité aussi, de quoi meurent les centenaires par exemple. Et on verra pour le reste, animaux, espace, on a plein de choses. On verra ce que le temps nous laisse.
Ce que le temps nous permet de faire. Moi, de mon côté, bien des insolites, comme d'habitude, venus du monde entier. Je vous donnerai la technique pour avoir des nouilles gratuites le matin dans le métro.
Ah ouais, c'est
possible. Il y a également, de quoi va-t-on parler ? Ah oui, on va parler également de la vie sexuelle des Bernard Lhermitte ce matin.
Ah, oui. J'avais fait les mouches il n'y a pas longtemps.
On va faire toutes les espèces animales au fur et à mesure de ces émissions. Également d'autres nouvelles animales avec par exemple une chienne qui a sauvé 4 personnes d'un incendie. Ça s'est passé au Québec. Une sacrée histoire que je vous raconterai, voilà, et bien d'autres insolites, parce que nous aurons le temps, je suis sûr. Bienvenue dans les voies de service, tout ceci arrive dans quelques instants.
Alors, comme on le disait, il fait un peu froid dehors.
Hein. J'ai cru remarquer, oui, effectivement.
Je sais pas pour vous, moi je suis venu à pied, effectivement, ça se sent.
Mm-hmm.
Et comment ça se fait que ça se sent ? Qu'est-ce que la température ressentie exactement ? On voit souvent ça, cette différence entre température officielle et température ressentie. Eh bien, lors des vagues de froid, comme celles qu'on peut avoir en ce moment, là, il fait pas bien chaud, les météorologues parlent souvent de température ressentie. Et donc, voici pourquoi le corps ressent une température différente de la température réelle. Alors, on va pas prendre les températures d'aujourd'hui, mais tout simplement, un moins 5 par une journée ensoleillée, sans vent, paraissent effectivement bien plus supportables que 5 degrés sous le crachin avec des bourrasques fouettant le visage. Et c'est pour traduire ce phénomène que les météorologues font appel à la température ressentie. Donc cette notion a émergé en Amérique du Nord dans les années 1940, mais elle n'a été relayée que de façon rigoureuse qu'au début des années 2000. En 2001, des médecins canadiens et américains ont étudié la perte de chaleur sur le visage des volontaires exposés à des températures et des vents variables. Puis, les résultats ont été validés auprès de la population générale pour établir le refroidissement éolien, the wind chill. Et donc, ce sont ces mêmes valeurs qui ont été adoptées au Canada, en France, depuis quelques années par les météorologues. Alors, je vous passe la formule exacte qui est un petit peu complexe pour obtenir ce résultat. Mais l'idée est de prendre en compte la vitesse du vent pour ajuster la valeur réelle de la température. La valeur, qui rigoureusement est un nombre sans unité, traduit la sensation éprouvée par la peau à cette température un jour sans vent. Par exemple, la sensation sur la peau un jour où il fait 0 degré, avec un vent de 30 km/h, est similaire à celle ressentie par moins 6 degrés sans vent. De plus, en plus de stations météo proposant une évaluation de la température ressentie... pardon, je vous dis, excusez-moi, je me perds dans ma lecture, ça y est, il fait trop froid.
Le cerveau gèle déjà.
C'est ça. Donc comment expliquer en fait que nous ne soyons pas objectifs face à ce qu'indique le thermomètre ? Donc la réponse est dans un mécanisme naturel de défense du corps contre le froid. Les poils permettent de retenir une petite pellicule d'air chaud au contact de la peau, et face au vent, cette isolation naturelle est balayée. Mais ce n'est pas tout. Cet air n'est pas seulement réchauffé par le corps humain, il est aussi humidifié par la transpiration. Lorsqu'il se fait remplacer par un air froid, sec, l'humidification reprend, ce qui refroidit l'organisme. Et donc à noter que cet indice ne prend pas en compte plusieurs autres phénomènes. La sensation de chaud procurée par l'exposition au soleil, par exemple, mais surtout l'humidité de l'air. Or, ce vecteur est crucial pour la température ressentie en été. En effet, lorsque l'humidité de l'air augmente jusqu'à saturation, cela empêche le corps de transpirer efficacement, bloquant ainsi le principal système de refroidissement du corps humain. Et d'autres indices, comme l'indice Humidex, permettent alors de rendre compte de la température ressentie.
Conclusion, bah je pense qu'ici au Canada on est habitué, mais toujours bien vérifier la température ressentie annoncée parce que ça peut faire une sacrée différence.
Ça change tout.
Et si vous avez froid, eh bien, j'ai peut-être une solution pour la STM. Ce serait de distribuer des nouilles dans le matin. C'est en tout cas ce qui se passe du côté de Tokyo. Alors, ce n'est pas à cause du froid, c'est pour une autre raison. Vous allez découvrir ça. Aux courageux qui accepteraient de changer leur routine pour prendre le train aux premières heures, une compagnie de métro de Tokyo se propose d'offrir nouilles et autres spécialités japonaises dans l'espoir de réduire l'affluence en période de pointe. Les utilisateurs de la ligne Tozai, une des plus bondées de la mégalopole, de la mégapole japonaise, avec 7,2 millions de voyageurs chaque jour, ça on parle du métro, hein, pourront bénéficier de ce programme censé être alléchant, même si la récompense sera somme toute plutôt maigre. Si 2000 personnes relèvent le défi au cours des deux prochaines semaines, chacune aura droit à un tempura, un beignet gratuit. Au-delà de 2500, ce sera un plat de nouilles soba et après 3000 participants, un assortiment des deux. Plus de 76 000 passagers empruntent la ligne Tozai entre 7h50 et 8h50, soit le double de sa capacité habituelle. La sécurité n'est pas en cause, mais les passagers sont tellement serrés comme des sardines qu'ils peuvent à peine bouger, a expliqué Takeshi Yamashita, un porte-parole de Tokyo Metro. C'est notre ligne la plus chargée, reliant le cœur de la mégapole au quartier est de Tokyo et de la ville de Shiba. Nous voulons régler ce problème et nous espérons que cette initiative encouragera les gens à maintenir leurs horaires matinaux sur le long terme, dit-il. D'autres lignes de la capitale sont tout autant bondées, mais elles sont exploitées par d'autres compagnies. Cette nouvelle campagne incitative est la énième mise en œuvre pour tenter de mieux répartir la foule de salariés japonais et rendre l'atmosphère moins suffocante aux heures de pointe. La congestion du métro fait partie des principales inquiétudes logistiques des organisateurs des Jeux Olympiques de Tokyo. Pour éviter le scénario catastrophe de bousculade mortelle, les salariés seront incités pendant la compétition à privilégier le télétravail, une pratique encore peu courante au Japon. Dans le cadre d'une campagne de 2 semaines, lancée par la municipalité de Tokyo, près de 1000 entreprises laissent leurs employés commencer et finir plus tôt que d'habitude ou travailler de la maison. Voilà, applicable ou pas ici, on pourrait peut-être imaginer des petites poutines distribuées à l'entrée du métro de la STM pour réchauffer tout le monde le matin. I lost my name in a Tokyo kiss. I lost my name. I lost my name in a Tokyo kiss. We'll be right back.
again. Begin to remember my name. Oh, please, please, please kiss me again. When I forget my name again. Oh, kiss me one time. Oh, kiss me two times. To kiss me three times.
Mike a quitté.
I lost my name in a Tokyo kiss. I lost my name. I lost my name in a Tokyo kiss. Tokyo kiss.
Tokyo Kiss, le titre de cette pièce de Arthur H.
Merci bien Jean-Sébastien, et il nous a rejoint dans le studio. Bonjour Yves-Olivier.
Bon matin.
Vous êtes réchauffé, c'est bon ?
Ça se poursuit.
Ça se poursuit, c'est en cours.
Reposez-moi la question d'ici une demi-heure.
Entendu, on verra.
Et voilà.
Et vous avez des sujets en revanche.
Tout à fait. Alors moi je vous propose de commencer avec un texte de Sophie Huimet de La Presse, qui nous fait découvrir un salon de thé pour amateurs d'architecture. C'est dans le coin de la rue Saint-Denis, qui est en renouvellement on va dire. Et elle nous propose ce beau petit spot qui pourrait être un arrêt pour se réchauffer lorsque vous vous promenez de ce temps-ci.
Tout à fait utile.
Vous voyez de quoi je parle.
Oui.
Alors, le mouvement, donc, comme je vous disais, de renouveau se poursuit rue Saint-Denis à Montréal, cette fois avec un joli café destiné avant tout aux amateurs de design, mais qui a été finalement adopté par un public beaucoup plus large. Lors du passage donc, de la journaliste, un après-midi d'hiver, quelques semaines après son ouverture, le café La Dépendance accueillait déjà plusieurs clients dans son local lumineux. Situé presque à l'angle de la rue Rachel Est, l'établissement s'inscrit dans la revitalisation de cette artère bien malmenée au cours des dernières années. L'instigatrice du projet, la designer Karine Beauregard, a eu l'idée au cours d'un voyage en Espagne après avoir visité un petit resto où elle avait adoré l'ambiance. C'est là que j'ai eu le déclic de jumeler le thé avec le design. Pas pour devenir une érudite du thé, mais juste pour le bien-être que procure le fait de boire un bon thé dans un bel espace, d'être inspiré et d'être bien. On peut donc y siroter une bonne infusion de l'institution française Palais d'été ou encore un café du torréfacteur montréalais Structure, avec mousse du lait de la Pinte. Sont aussi offerts des biscuits et autres pâtisseries maison auxquelles s'ajouteront un menu salé et des brunchs le week-end. De fil en aiguille, en mijotant son projet, la designer, qui est aussi derrière l'entreprise Entre Quatre Murs, a ajouté à son offre un coin librairie avec une sélection de livres triés sur le volet. Je voulais avoir des ouvrages concentrés sur le design, l'architecture, le « do it yourself », poursuit Karine Beauregard, citant en exemple la librairie gourmande du marché Jean Talon. Finalement, elle a inclus un espace boutique avec des accessoires de déco ou des petites douceurs provenant de créateurs locaux, dont dimanche matin, dans le sac, les miels d'anisette, l'aliché, la dinette nationale, pour n'en nommer que quelques-uns. Le seul critère, que ces produits soient beaux et bons, comme elle les aime. Je suis donc inspiré par le packaging quand je magasine, donc c'est ce que j'ai voulu reproduire avec la boutique. Tout au fond de la boutique est nichée l'alcôve, une salle destinée à accueillir des conférences sur tous les sujets touchant à l'architecture. Des lunch and learn d'entreprise ou encore des ateliers de do-it-yourself. On a créé des tables polyvalentes dont on peut changer le dessus super facilement. Par exemple, il y en a certains sur lesquels on peut écrire lors de séances de brainstorm, puis qu'on peut échanger de côté que les tables se prêtent au DIY. Pardon, excusez-moi. Là, on peut faire n'importe quoi, de la peinture coupée sur la table. Lumineux et aéré. C'est la division commerciale de son entreprise de design, Espace 313, dont les locaux sont situés juste à un peu plus bas, la rue Saint-Denis, qui a créé de toute pièce la décoration du café au linge scandinave. Au linge, aux lignes scandinaves.
Excusez-moi. C'est arrivé, c'est le froid.
C'est ça. L'équipe de designers a d'ailleurs remporté le premier prix au concours Porte ouverte sur Saint-Denis, l'année dernière, pour la création de cet espace. Je voulais que le lieu devienne inspirant pour les amateurs de design, de décoration, mais aussi pour tout le monde finalement, parce que je me rends compte que ça touche un public beaucoup plus large que ce à quoi je m'attendais, raconte la principale intéressée. Et en effet, toute cette clientèle bigarrée qui prend un thé cet après-midi-là dans le local baigné de soleil semble lui donner raison. L'adresse, c'est le 4282 rue Saint-Denis, à Montréal.
C'est coin Rachel, c'est ça ?
C'est cela.
Voilà. Bien, merci beaucoup.
On ira faire un tour.
Pendant que celui d'Yves Olivier termine de dégeler, nous allons parler, je crois, de cerveau avec Yves. Avec, pardon, mais le mien aussi, voilà.
Voilà,
le mien aussi est complètement gelé. Donc, comme sauvez-nous, menez cette émission.
Cerveau et surtout cette rumeur que vous avez sûrement déjà entendue, selon laquelle on n'utiliserait que 10% de notre cerveau. Alors,
abattez le mythe, s'il vous plaît.
Spoiler alert, c'est complètement faux. Voilà. Donc, cette rumeur, oui, effectivement, selon laquelle notre cerveau ne fonctionnerait qu'à 10% de ses capacités est bel et bien une légende. Mais elle est si répandue qu'elle a même été mise au cœur de certains films, tels que Lucy de Luc Besson. On y voit l'héroïne incarnée par Scarlett Johansson découvrir les pleines potentialités de son cerveau, qu'elle n'utilisait, comme nous tous, simples mortels, qu'à 10% d'après le synopsis du film. Donc les racines de cette théorie des 10% remontent à une théorie scientifique émise au 19e siècle par deux psychologues de l'université de Harvard. Ce n'est pas simplement faux, ni même doublement faux, mais quintuplement erroné, etc.
Oh là là, même à Harvard, ils font des erreurs.
Ils font de grosses erreurs. On va essayer de comprendre pourquoi. Donc, premièrement, bah, effectivement, on l'aurait vu à l'imagerie quand même. si un siècle plus tôt, aucun appareil d'imagerie n'existait pour éprouver cette hypothèse, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Or, si 9 dixièmes de notre cerveau était inactif, la tomographie par émission de positons, donc TEP, et l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, donc IRM, l'auraient effectivement détecté. Seulement, ça n'a jamais été le cas. Bien au contraire, les outils d'imagerie cérébrale montrent que toutes les zones de notre cerveau, sans exception, sont utiles et actives. Deuxième point, les lésions cérébrales seraient sans effet. Effectivement, si 90% de notre cerveau était superflu, la plupart des lésions cérébrales n'auraient absolument aucun effet. Et c'est tout le contraire qu'on observe. La recherche médicale ne connaît aucune région cérébrale dont une lésion serait sans conséquence. Même des dommages de taille infinitésimale peuvent avoir des conséquences désastreuses et incapacitantes pour un individu.
Donc continuez à porter vos casques en moto et en vélo.
Exactement. Troisième point, notre cerveau serait donc atrophié. Il en va du cerveau comme des muscles, un tissu cellulaire inutilisé a tendance à s'atrophier. Donc si 90% de notre cerveau demeurait inactif, l'autopsie de personnes adultes aurait révélé des dégénérescences massives. Or, ce n'est pas le cas. Quatrième point, une activité qui dépend des tâches à accomplir. Donc la recherche médicale connaît très bien des individus dont le cerveau manifeste une activité électrique très supérieure à la moyenne. Mais ça n'en fait pas pour autant des super-héros ou des surdoués. Bien au contraire. Puisque ces personnes sont en fait épileptiques. De fait, si le cerveau ne carbure jamais constamment à 100%, c'est justement pour éviter les risques de surchauffe ou d'embrasement cérébral qu'expérimentent ces malades. Si l'être humain n'utilise que quelques pourcents de son cerveau, c'est donc à un instant T donné et nullement sur l'ensemble d'une journée, durant laquelle la totalité des zones cérébrales sera activée à un moment ou à un autre, en fonction des tâches à accomplir. Et c'est aussi donc le cinquième point contraire à l'évolution. D'un point de vue évolutif, cette hypothèse des 10% est absurde. La nature a autant horreur du vide que de l'inutile. Tout ce qui n'a pas de fonction se retrouvera éliminé. Exemple, l'appendice caudal de nos ancêtres primates, devenu inutile chez nous et qui s'est réduit au fil du temps à un reliquat osseux à la base des vertèbres. Ou notre denture, moins fournie aujourd'hui qu'au temps de la préhistoire du fait de modifications importantes de notre régime alimentaire. Un gros cerveau a un coût évolutif colossal, car il augmente considérablement les risques de mortalité lors de l'accouchement. Un gros cerveau consomme également beaucoup d'énergie. s'il n'apportait aucun avantage à notre espèce, en dehors de quelques individus chanceux, jamais un cerveau inutile en moyenne à 90% n'aurait perduré jusqu'à aujourd'hui. Bref, aucun argument sérieux n'existe en faveur de cette hypothèse des 10% utiles du cerveau.
Donc même si certains peuvent parfois donner l'impression d'en utiliser une petite partie, nous sommes tous complètement à peu près fonctionnels.
Donc, on utilise combien de pourcents déjà?
À tout, on utilise tout.
On est à 100%?
On est tous.
En fait, c'est jamais à 100% en même temps. Ça évite justement les risques de surchauffe, etc. Et je pense que c'est de là qu'est née cette rumeur, c'est que le cerveau utilise toutes ses capacités, mais jamais tout à la fois.
D'accord.
Mais vous n'utilisez pas les mêmes quand vous lisez, quand vous faites du sport.
Exactement.
Quand, voilà.
Et ça se peut qu'il y en ait qu'on n'ait jamais utilisé.
C'est compliqué, je pense.
Si un jour vous avez l'impression de vous découvrir vous-même, voilà. venez nous en parler et allez en parler à Harvard.
Parfait, merci.
J'ai cherché ça et là, je ne l'ai pas trouvé. Dis-moi, où est ma tête? J'ai perdu mes bras sur la place de l'opéra. Je ne les ai pas trouvés. J'ai cherché ça et là, dis-moi. J'ai cherché ça et là, je ne l'ai pas trouvé. Dis-moi, où est mon nez? Reviens, chérie, vers moi. Mon nez n'importe pas. C'est toi qui peux me
Pink Martini qui nous demandait « Où est ma tête ?»
Où est ma tête ? Merci Jean-Sébastien. Et il y a une personne, un animal plus particulièrement, qui n'a pas oublié sa tête et qui a fait un acte héroïque au Québec la semaine passée. À Sutton, une chienne sauve 4 personnes d'un incendie et prend la fuite. En fin de soirée, mardi passé, le luxueux gîte des Cantons de l'Est accueillait 2 clients, en plus du propriétaire et d'une autre membre de la famille, Ellie Conway. Après avoir soupé en compagnie du propriétaire, Madame Conway est sortie marcher en compagnie de son chien Mocha et de Bella, la chienne de la fille du propriétaire. Au retour de sa promenade, la jeune femme de 25 ans, venue passer 2 jours de repos, est montée avec les chiens à sa chambre au 4e étage, le point le plus élevé de la maison. À un certain moment, elle dit avoir entendu un bruit lointain à travers la lourde porte de sa chambre qui pouvait ressembler à une alarme, mais semblait trop éloignée. Les alarmes vont en progression et ça venait tout juste de commencer, raconte la jeune femme, qui est la conjointe du petit-fils du propriétaire. Mais les chiens se sont dressés très rapidement et sont partis en flèche vers le feu. Ce sont les premiers qui ont entendu l'alarme, je les ai suivis jusqu'en bas et c'est là que j'ai découvert l'incendie. Elle a alors immédiatement composé le 911. Je ne trouvais pas le propriétaire et j'ai laissé les chiens avec les clients pour aller chercher Thomas. Quand je suis ressorti, Bella avait disparu, décrit-elle avec aplomb. Il semble que les flammes qui ravageaient l'impressionnant immeuble évalué à plus de 1,5 million de dollars aient effrayé la chienne, Bella, âgée de 3 ans, qui est donc introuvable depuis, mais écoutez, a fait une sacrée bonne action en prévenant tout le monde dans la maison.
Voilà, donc cherchons Bella, s'il vous plaît.
Cherchons Bella, trouvons-la et récompensons-la. C'est reparti pour la deuxième partie de cette émission. Yves Olivier, de quoi nous parlez-vous ?
Bah écoutez, je vais vous parler de climat et de l'environnement. Et d'encore un autre exemple des méfaits qui sont causés par le réchauffement de la planète. Et comme je vous disais tantôt, hors onde, souvent l'histoire, le passé nous prépare un peu à l'avenir. Mm-hmm. Et là, ce qu'on remarque, c'est qu'au Canada, la pomme de terre est en danger à cause du réchauffement de la planète. Et comme on discutait tantôt en ronde, les Européens, donc en Irlande, ont à un moment donné pris la décision de s'en aller vers l'Amérique du Nord parce que la pomme de terre, il y avait une crise au sujet de la pomme de terre dans leur pays. Donc on ne pourra pas dire qu'on n'aura pas été prévenu.
Exactement, surveillons ça, nous vous voilà. Écoutons.
Donc la pomme de terre canadienne fera face à des problèmes considérables si les températures continuent de se réchauffer, s'il faut en croire une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique canadienne Botany. Ce sont 55 différents cultivars de pommes de terre qui ont été examinés, indique le professeur Om Rajora de l'Université du Nouveau-Brunswick, et toutes ont souffert lorsque cultivées sous des températures plus chaudes. De plus gros plants ont poussé dans ces conditions, mais la production de tubercules a chuté considérablement. Les plants ont vu leur teneur en chlorophylle augmenter globalement, mais la production de tubercules de pommes de terre a diminué de 93%, résume le professeur Rajora. Certains des cultivars n'ont même pas produit de tubercules. Même les variétés qui s'en tiraient le mieux ont produit 70% moins de tubercules. La Russet Burbank, l'une des variétés les plus communes et les plus consommées, n'en a produit qu'un. Les chercheurs ont soumis la moitié des cultivars étudiés à des températures de 35 degrés Celsius le jour et 28 degrés Celsius la nuit. Le groupe témoin était soumis à des températures de 18 à 22 degrés Celsius, semblables au climat des Andes en Amérique du Sud. Le professeur Rajora signale que certaines des conditions que les chercheurs ont créées pour leur étude se sont déjà manifestées naturellement hors du cadre de leur projet. Monsieur Rajora ne croit pas qu'il serait viable de faire la production des variétés de pommes de terre étudiées si les conditions plus chaudes auxquelles elles ont été soumises devenaient une réalité pour les cultivateurs. Le Conseil de la pomme de terre de l'île du Prince-Édouard se dit au courant des menaces que font peser les changements climatiques sur les cultivateurs et sur leur industrie. Le directeur général du groupe, Greg Donald, indique que le Conseil a approché Agriculture et Agroalimentaire Canada pour que soient trouvés des cultivars de pommes de terre adaptés aux conditions climatiques auxquelles on peut s'attendre au Canada. Des variétés de l'ouest des États-Unis ont été soumises à des essais, dit-il. Selon M. Donald, l'industrie canadienne de la pomme de terre doit trouver des variétés qui produisent beaucoup de tubercules durant de courtes saisons et se prêtent bien à la, culture pluviale dont on... tout en résistant à des conditions météorologiques variables et irrégulières.
Est-ce que ça veut dire que les Nord-Américains vont devoir partir vers l'Irlande?
On n'est pas encore rendu là.
D'accord, ça va alors.
Mais peut-être vers la Californie, on ne sait pas.
Eh bien, on va parler d'Irlandais encore.
Ben voilà, transition toute trouvée.
Pas vraiment en fait. C'est juste, ce sont des chercheurs irlandais en fait qui viennent de trouver la réponse à une question. C'est pourquoi la toxicité des venins de serpents varie beaucoup d'une espèce à l'autre. Donc tout simplement, le cobra par exemple, le serpent à sonnette, le boomslang africain, bénéficie de venins mortellement foudroyants qu'ils stockent dans des quantités telles qu'ils peuvent tuer plusieurs proies en même temps. A l'inverse, les espèces arboricoles et marines produisent des toxiques peu actifs, portés en faible quantité, qui affectent peu les organismes. Mais alors pourquoi cette variation exactement? Donc la question agite le milieu des écologues depuis des décennies. Et il vient de trouver une réponse simple et lumineuse. Tout dépend de la proie, révèle un article publié dans Ecology Letters. Jusqu'ici, les comparaisons entre venins s'effectuaient sur la même espèce témoin, pour bien étalonner leur efficacité. Les chercheurs de l'université du Galway, du Trinity College de Dublin en Irlande, de St Andrews en Écosse et de la Société zoologique de Londres en Angleterre ont plutôt comparé la toxicité du venin et la quantité produite entre 102 espèces, du cobra au boomslang, en passant par les serpents à sonnette, les serpents marins vivant dans les barrières coralliennes et les 21 espèces du genre Atractapis. Puis, ils ont relié ces résultats avec les proies préférentielles et l'environnement où évoluent ces reptiles. C'est ainsi qu'est apparu un lien fort. Le venin est plus efficace sur la proie que le serpent consomme préférentiellement. Le principal auteur de l'étude, Kevin Healy, chercheur à l'Université nationale de Galway, estime que ces résultats ont du sens du point de vue de l'évolution, dans la mesure où les venins se transforment pour être les plus efficaces sur les proies que le reptile va rencontrer le plus souvent. Ainsi, du fait que les serpents de mer ne trouvent pas de souris dans la mer, leur venin a évolué pour être plus efficace sur les poissons. L'étude donne un autre renseignement. L'environnement explique la plus ou moins importante production de venin. Dans les récifs coralliens, et dans les arbres, les serpents bénéficient d'une nourriture plus abondante et n'ont donc pas besoin de faire de grandes réserves. Ce n'est pas le cas des reptiles rampants sur Terre. La rencontre d'une proie est plus difficile et plus rare. Mais il est intéressant de posséder de grandes réserves pour profiter de la moindre opportunité. Outre que la compréhension de l'évolution du venin pourrait déboucher à mieux identifier les risques de morsure, c'est quand même 2,7 millions de cas d'empoisonnement dans le monde tous les ans, le protocole original utilisé dans l'étude pourrait permettre de mieux identifier les poisons et permettre ainsi la découverte de molécules potentiellement intéressantes pour l'homme.
Donc mieux vaut se baigner que de se promener dans la jungle.
Dans le désert.
C'est ma conclusion.
Effectivement.
In the middle.
Issu de leur album The Unforgettable Fire 1984, c'était la formation irlandaise U2 and Pride in the Name of Love. Donc, petit lien facile, on reste encore avec l'Irlande.
Merci pour ce réveil irlandais, ça fait du bien. Nous parlions juste avant de nature, d'animaux et d'évolution. Eh bien, restons dans ce thème-là. Je ne vais pas parler de serpents comme Koum, et moi, mon article à moi est un peu plus rose, si on veut, un peu plus coquin. Parlons de la vie sexuelle des Bernard l'Ermite. Eh ben oui, parce que ça fait partie de la nature aussi, et que c'est tout à fait intéressant. Pas évident pour un Bernard l'Ermite de se reproduire en toute sérénité sans que ses congénères ne tentent de lui dérober sa coquille. Au cours de l'évolution, le pénis de certaines espèces terrestres aurait grandi pour réduire ce risque, suggère une étude. Mark Ledre, biologiste au Dartmouth College aux États-Unis, étudie depuis plusieurs années ces crustacés à l'abdomen mou qui s'abritent dans une coquille vide de gastéropodes et changent de logement à mesure qu'ils grandissent. Dans une étude publiée mercredi dans Royal Society Open Science, le chercheur se penche sur l'importance de ce qu'il appelle la propriété privée, à savoir la coquille, sur l'évolution de la taille du pénis de ces animaux, également appelés pagures. En effet, toutes les coquilles ne se valent pas. Les plus prisées sont celles qui ont été remodelées par le crustacé. Car si les Bernard l'Ermite aquatiques se contentent de s'approprier des coquilles abandonnées, certaines espèces terrestres vont plus loin et transforment leur logement grâce à des substances chimiques et des actions physiques, notamment pour en alléger le poids. Mark Ledre s'est intéressé aux risques auxquels s'expose le Bernard l'Ermite lorsqu'il se reproduit et cherche à transmettre ses gènes. Il lui faut en effet sortir en partie au moins de sa coquille pour pouvoir féconder la femelle avec ce qui peut s'apparenter à un pénis, selon le chercheur. Grâce à des tubes sexuels, il éjacule une substance gélatineuse portant des spermatozoïdes à l'entrée de l'appareil génital de la femelle. Le mâle est alors très vulnérable face aux voleurs de coquilles. Si un congénère la lui dérobe, le Bernard l'Ermite terrestre risque de se dessécher et de mourir en moins de 24 heures. Dans son étude, le chercheur a d'abord posé l'hypothèse que les pénis de ces crustacés, auraient évolué et se seraient agrandis pour éviter le vol de leurs biens pendant l'acte sexuel. Puis il s'est attaché à vérifier son hypothèse. il a observé pas moins de 328 spécimens de 9 espèces voisines du Bernard Lhermitte terrestre et aquatique conservés dans des musées. Il a notamment mesuré très précisément le rapport entre la taille du pénis et la taille des individus. Résultat, les espèces terrestres de la famille Coenobita, qui remodèlent leur logement, ont des plus grands pénis relativement à leur taille que les espèces qui ont des coquilles non travaillées. Et celles-ci ont un attribut mâle plus grand que des crustacés voisins qui n'ont pas de coquilles. Ces résultats suggèrent que des pénis plus grands résultent d'adaptations morphologiques pour faciliter, entre guillemets, le « safe sex », qui consiste, pour les individus, à conserver leur bien en étendant un long pénis en dehors de leur coquille pour copuler, résume le chercheur. Continuons notre tour de table avec un sujet insolite encore, oui. Décidément.
Oui, oui.
Mais, donc, comment allez-vous le présenter? Comment allez-vous l'amener?
Comment
nous vous regardons faire.
Donc, si je combine les Bernard Lhermitte,
ça va être très compliqué, là,
la pomme de terre
c'est
canadienne,
mal embarqué, c'est...
le venin de... On fait un mix de tout ça et je vous... Et on va y aller avec le maquillage des hommes.
Très bien.
Oui, les hommes se mettent au maquillage, selon Marion Lefebvre de l'agence France Presse. Mais moi, j'ai quasiment envie de dire se remettent. Mm-hmm. Parce que si on regarde encore une fois dans les temps anciens...
Mm-hmm, en Égypte, etc.
Voilà, en Égypte,
en Europe. Il y a quelques centaines d'années, effectivement.
Ouais,
absolument,
puis,
oui, plus récemment.
Et beaucoup de peuples, même chez les hommes les plus virils, ceux qui allaient à la guerre, se maquillaient pour aller à la bien guerre. Sûr. Donc, C'est juste un juste retour des choses. Le fond de teint, gloss et palette de maquillage, les cosmétiques envahissent les étagères de plus en plus d'hommes. Couvrant coloré à paillettes ou plus discret comme l'anticerne, le maquillage élargit le champ des possibles masculins et suscite l'intérêt des marques. Chez Chanel, la collection Boy, B-O-Y, en majuscule, un fond de teint, un baume à lèvres et un stylo pour sourcils, arrive dans les magasins français de la marque courant janvier. Rejoignant Givenchy, Tom Ford, Jean-Paul Gaultier qui se sont déjà lancés dans l'aventure avec des produits similaires. Cette révolution de salle de bain médiatisée par des youtubeurs à succès comme Bilal Hassani reste à relativiser. Selon l'agence c'est une agence qui fait dans l'étude de marché, seuls 5% des nouveaux produits de beauté et soins lancés dans le monde sont destinés aux hommes. Mais si sortir maquillé dans la rue n'est pas encore courant pour Georges Vigarello, historien spécialiste des représentations et pratiques corporelles, l'émergence du maquillage chez les hommes participe d'un re-questionnement du genre bien engagé. « J'ai l'impression d'incarner quelque chose de différent », raconte Arthur Lefebvre à l'AFP. Étudiant de 19 ans en médiation culturelle à la Sorbonne, il a commencé à se maquiller à son arrivée à Paris en septembre 2018, au départ pour embrasser entre guillemets les codes « queer ». Queer. Hein. On n'a pas peur de dépasser, d'être hors norme, avance de son côté Valentin Wimmer, étudiant de 18 ans en licence d'anglais à Strasbourg, qui se revendique gay lui aussi. Ceux qui se lancent dans ces pratiques ont le sentiment d'être un peu des pionniers, poursuit Georges Vigarello. La communauté LGBT est bien l'avant-garde de cette évolution, mais cette dernière commence à dépasser son cadre initial. L'affirmation progressive de la femme dans l'espace public, dans le domaine du sport ou le monde du travail, fait que le statut masculin se déplace vers un certain nombre d'autres qualités, comme la sensibilité, la douceur ou l'esthétique, juge Georges Vigarello. Les codes de la virilité à l'ancienne, dans une certaine mesure, n'ont plus de sens. Aux États-Unis, des youtubeurs maquillage hommes, comme Manny Mua ou Jeffree Star, totalisent déjà plus de 10 millions d'abonnés et lancent même leur propre marque de cosmétiques. En France, les youtubeurs beauté sont encore peu nombreux. Mais depuis le début des années 2010, les précurseurs, Richard avec 2A, 2609, Maxime Makeup Pro ou Beautician, entre autres, sont déjà suivis par plusieurs centaines de milliers d'internautes. Les marques de cosmétiques ont d'ailleurs flairé la bonne affaire en choisissant de faire de certains de ces influenceurs leurs ambassadeurs. Richard 2609 est ainsi devenu un des visages de Sephora sur les réseaux sociaux français. Sur sa chaîne, il propose des tutoriels et des tests de produits. Au Sephora des Champs-Élysées, où Richard a travaillé, il est très courant que des hommes demandent du maquillage, explique-t-on à l'AFP. Le magasin n'a pas de rayon de maquillage masculin, mais référencera la collection Mister de Givenchy à partir du 21 janvier. Sephora est souvent cité par les jeunes hommes interrogés par l'AFP, notamment pour l'aspect inclusif de certaines marques référencées. Valentin Wimmer y achète sa base, quelques crèmes, du fond de teint et de la poudre. Idem pour Antoine Dubreuil, 24 ans, conseiller en images dans une boutique de prêt-à-porter à Paris. Typé viril, avec un côté gamer, ce jeune homme barbu alterne entre des produits aux teintes très douces et plus voyantes selon les occasions. Le maquillage deviendrait-il un produit unisexe ? On n'en est pas là, juge la sociologue Marion Brezaz. Il reste un attachement aux pratiques esthétiques traditionnelles de genre selon lesquelles les uns et les autres ont à cœur de se distinguer du travail esthétique de l'autre sexe. Cette résistance traverse les classes et les orientations sexuelles, souligne la sociologue. La manière dont des individus jonglent avec ces codes esthétiques laisse pourtant présager d'une marge de manœuvre que le maquillage masculin pourrait bien investir plus largement à l'avenir.
Eh ben écoutez, oui, pour l'instant, on va écouter la musique pour l'instant. While I am sleeping beneath these apple trees of sorrow grown for me. And I could say days, but you wouldn't care. I see those carvings in the tree we share. I know that it is all of the moments that I spend with you. I suddenly feel that none of them were true. I know the leaves are falling for you, fading for me. Those bright lights just ain't lights of love left to be. And now I'm like, hey, what's going on? I lay down by the fire, warming up my bones, cause it's freezing and the only thing I want is to melt. I wish I had the wherewithal to do so, but I'm so alone. Don't you know that it ain't so nice to be fooling around and picking my heart up to throw it away. And I could sit days, but you wouldn't care. And I see those carvings in the tree we share. I know that it is all of the moments that I spend with you. I suddenly feel that none of them were true. I know the leaves are falling for you, fading for me. Those bright lights just ain't lights of love left to be. And now I'm like, hey, what's going on? Days as the days go by, and nothing seems clear as I clearly try, to figure out why I fell in love so hard. It must be these apples that I ate at the start. In the end, I'm calling for you, oh please answer to me. Those bright lights are still lights that I'd like to see, and now I'm like, hey, what's going on?
De leur album qui est paru il y a déjà 5 ans, leur premier album qui s'intitule Pulp, c'était la formation The Seasons avec la pièce Apples, The Seasons Group, dans laquelle on a pu voir évoluer Hubert Lenoir avant qu'Hubert Lenoir devienne Hubert Lenoir, à l'époque où il était encore Hubert Chiasson.
D'accord, merci Jean-Sébastien. Je disais avant que cette jolie musique ne nous coupe que pour l'instant nous étions une émission de radio, mais qui sait, peut-être un jour on pourrait se lancer sur YouTube nous aussi dans le maquillage masculin, puisque, oh, oui, puisque oui. ça se lance un peu partout.
Ouais, le YouTube nous appelle. Hein, YouTube avec nous appelle. Les articles dont on parle, c'est un signe. Hein.
Voilà. Parenthèse fermée, je vous laisse la parole, Côme.
Très bien, parlons un petit peu longévité. J'imagine qu'on veut tous vivre hein, le plus longtemps possible.
Oui. C'est pour les humains, là. On ne retourne pas avec les animaux.
Non, parlons humains.
Alors, sauvons la pomme de terre.
Hein. Effectivement. Parce que on va parler longévité, parce que le doyen de l'humanité est mort très récemment, le 20 janvier 2019. Le japonais Masao Nonoka était âgé de 113 ans. Et en 2014, donc, une étude britannique s'était penchée sur les conditions de vie des centenaires, notamment des centenaires britanniques. Devenir centenaire en fait rêver plus d'un, mais même si l'extrême longévité est souvent synonyme de bonne santé, elle est aussi reliée à une extrême fragilité. Une équipe du King's College de Londres, publiée en juin 2014 dans la revue PLOS Medicine, Plus Medicine, s'est intéressée de près aux conditions de fin de vie des centenaires britanniques entre 2001 et 2010. Les chercheurs ont analysé 35 867 certificats de décès en Angleterre entre 2001 et 2010. Les personnes en question étaient âgées entre 100 et 115 ans, l'âge médian étant de 101 ans. Les personnes âgées sont principalement des femmes, 87% vivant seules, veuves dans 85% des cas. Les résultats donc, 28% des personnes décédées passé l'âge de 100 ans sont mortes de vieillesse, ce qu'on appelle de vieillesse, et presque 1 sur 5 de pneumonie. 9% des décès dans cette tranche d'âge sont attribuables à une attaque cérébrale, 8,6% aux maladies cardiovasculaires et 4,4% au cancer. Mais dans 75% des cas, les médecins estiment que l'âge avancé est une cause sous-jacente ou participante du décès. L'étude relève également qu'une majorité de centenaires meurent à l'hôpital, notamment en cas de pneumonie. Les chercheurs ont comparé ces résultats avec des personnes âgées de 80 à 99 ans. Et dans ce groupe, le cancer est la cause de 25% des décès et les maladies du cœur de près d'un décès sur 5. Seulement 6% de ce groupe meurent à la suite d'une pneumonie et quelque 17% des octogénaires meurent d'une attaque cérébrale. Les centenaires sont donc moins nombreux à mourir de démence, comme la maladie d'Alzheimer, que leurs cadets de 20 ans. En 2013, en France par exemple, on comptait 16 273 centenaires. En 2050, elle devrait en compter 140 000, selon l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques. Les centenaires ont dépassé l'âge auquel on meurt de maladies chroniques, mais c'est un groupe de plus en plus fragile et vulnérable à la pneumonie et d'autres problèmes de santé, explique en 2014 le docteur Catherine Evans, auteure principale de l'étude. Nous devons prévoir les services de santé qui assument les besoins cachés de ce groupe. Elle propose donc par exemple d'accroître le nombre de lits en maison de retraite, ce qui pourrait réduire le besoin en soins hospitaliers. Mais nous avons besoin de renforcer la capacité d'accueil de ces structures avec notamment des soins de haute qualité, avec des médecins généralistes, des infirmières et d'autres professionnels de santé pour permettre aux gens de finir leur vie dans leur résidence habituelle s'ils le souhaitent.
Et ça me fait penser, est-ce que nous avions eu le fin mot de l'histoire de l'affaire Jeanne Calment il y a un mois? Je ne sais pas si vous aviez vu ça. Est-ce que c'était faux finalement?
Non, il y a toujours des... Effectivement, il y a beaucoup de gens qui remettent en cause son âge.
C'est ça, pour rappel, il y avait eu soi-disant une affaire sur laquelle c'était sa fille qui avait pris sa place.
Ce sont des rumeurs. Les médecins qui ont suivi Jeanne Calment ont effectivement témoigné. Ils ont rencontré Jeanne Calment à de multiples reprises. L'ont questionné sur sa vie passée, etc., justement pour avoir un maximum de témoignages et s'assurer que c'était bien elle.
Eh bien, je suis tombé dans le piège des fake news alors.
Effectivement.
Et une petite brève pour terminer, il ne s'agit pas d'une centenaire, mais d'un bébé. Un bébé qui a eu beaucoup de chance parce que, eh bien, il est tombé d'une auto dans un virage. Il est resté attaché au siège auto enfant et ça a été filmé par la voiture qui était derrière. Ça s'est passé aux États-Unis. On voit le bébé dans son manteau rose tombé avec le siège auto. Heureusement, le bébé va bien. Une grande frayeur pour peut-être cette future cascadeur dans des films, pourquoi pas.
Et comment va le siège auto?
Le siège auto, il faudra peut-être le changer pour être sûr, mais il allait bien.
C'est aussi le secret pour vivre une centaine d'années au moins.
Exactement.
Survivre à tout ce genre de...
Mettre en jeu tout ça. Merci à tous pour cette émission. Merci Com, merci Yves-Olivier, merci Jean-Sébastien Liberté pour la mise en onde et les choix musicaux. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.
Bonne semaine, bye bye.